Mes amis, certains ont peut-être été étonnés que je n'ai pas fait chaque soir de longues lectures bibliques. Ce soir, je vous placerai en face de quelques portions de l'Écriture que nous allons lire et qui resteront pour vous une occasion de méditation personnelle. Et vous vous rendrez compte que tout ce que nous avons essayé de vous enseigner se trouvait dans la parole. Et que derrière chacune de nos pensées, il y avait un texte biblique. Mais pour ne pas trop charger les soirées, et nous avons gardé ces textes pour ce soir et nous vous les laissons à votre méditation. Ce sera, croyons-nous, la meilleure conclusion. Je lis d'abord dans Romains chapitre 12, à partir du verset 9e, et vous verrez tout de suite qu'il est bien question de la pratique des vertus chrétiennes. Vous chercherez chez vous à souligner toutes les vertus qui se trouvent dans cette fin du chapitre 12 des Romains, et ce sera très intéressant pour vous de voir lesquels vous pouvez grouper autour de ces quatre vertus qu'on a appelées cardinales et qui sont la force, la justice, la prudence et enfin la tempérance, la maîtrise de soi. Écoutez bien. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ô Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie-nous ce soir par ta vérité. Amen.
Amen.
Eh bien, mes amis, je veux croire qu'au terme de ces journées, les uns et les autres, vous avez bien saisi que pratiquer les vertus chrétiennes, ce n'est pas s'efforcer de faire le bien par nous-mêmes ou d'avoir l'habitude du bien, mais c'est laisser Jésus vivre et développer sa vie en chacun de nous. Après s'être laissé saisir par le Christ, tout notre désir, c'est de le saisir à notre tour en toutes circonstances. C'est ce que disait l'apôtre Paul après des années et des années de vie avec Jésus. Il cherchait toujours à le saisir en tout temps. Et c'est ainsi que nous ne resterons pas des petits-enfants, des justes sauvés, mais des hommes et des femmes qui parviendront à cet état que l'apôtre appelle des états d'hommes faits, à la pleine mesure de la stature du Christ. Et je veux croire que vous continuerez de vous souvenir que seul Jésus a manifesté dans sa vie toutes ses vertus que l'on appelle chrétiennes. Elles sont celles du Christ. Que ce soit les vertus théologales, qui ont donc Dieu pour objet, Jésus nous a manifesté ce qu'est une vie de foi, ce qu'est une vie d'espérance, ce qu'est une vie d'amour. Et ces trois vertus sont développées spécialement dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, qu'il nous faudrait lire aussi, que je vous ai déjà demandé de lire, et que certainement vous allez noter pour le lire. Et là, vous découvrirez que la plus grande de ces trois vertus théologales, c'est laquelle ? C'est la charité, c'est l'amour. Et pourquoi ? Parce que quoi ? On va être jugé sur l'amour, mais autre chose. Elle va demeurer. La foi aura une fin quand elle sera remplacée par la vue, parce que nous verrons Jésus. Il n'y aura plus besoin de foi. L'espérance aura une fin parce que nous aurons la possession, nous posséderons ce que nous avons espéré, mais ce qui demeurera, c'est l'amour. Voilà pourquoi elle est appelée la plus grande chose, c'est l'amour. Et hier soir, comme aussi dans la précédente veille, nous sommes arrêtés sur cette question du jeune homme riche, que me manque-t-il encore ? Et peut-être qu'en relisant ce chapitre 13 des Corinthiens, vous vous demanderez, mais moi, qu'est-ce qu'il me manque pour que j'aie une plénitude de vie, pour que la vertu du Seigneur se manifeste, qu'est-ce qu'il me manque ? Mais peut-être qu'il me manque le parler en langue. Bon, peut-être. Ou bien un autre dira, ben moi, ce qui me manque, c'est la prophétie. Oh, s'il y avait la prophétie. Puis un troisième dira, moi, ce qui me manque, oh, si je pouvais avoir ça, alors ça serait la plénitude. C'est la science, c'est la connaissance. Un autre dira, moi, ce que je voudrais avoir, c'est cette foi qui transporte les montagnes. Ah, si j'avais une plus grande foi, bien, là j'aurais la plénitude. Ce qui me manque, c'est sûrement cette foi. Et puis, quelqu'un d'autre dira, moi, ce qui me manque, là je commence à comprendre, c'est cette générosité. Ah, si je pouvais être moins égoïste et donner davantage à tous les pauvres de la terre. Et puis, un dernier dira, moi, ce qui me manque, c'est ce dévouement total qui devrait me conduire à désirer même être brûlé pour le Seigneur. Me mettre le feu, je me vide un bidon d'essence sur moi, et puis je me sacrifie comme ça, là, sans une allumette. Et vous savez qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça, hein, ces dernières années. Si j'avais ce courage, hein, de m'offrir comme cela en holocauste, bien alors ça serait la plénitude. Ben, vous avez qu'à relire ce chapitre et vous serez vite détrompé. car il est dit que si vous aviez le don des langues et que vous puissiez parler la langue des hommes et des anges, mais qu'il vous manque l'amour, vous n'êtes rien qu'un airain qui résonne, qu'une cymbale qui retentit. Du bruit, du bruit, du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps en sacrifice pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Puis vous avez cette description de l'amour, ce que l'amour ne fait pas, et ce que l'amour fait. Donc, vous comprenez bien que sans l'amour, vous n'êtes rien, et ce que vous faites ne sert de rien. Donc, dans ces trois vertus théologales, la plus importante, et ce qui doit être le mobile de toutes vos actions, et de toutes vos pensées, comme aussi de vos paroles, c'est l'amour pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Maintenant, en Jésus, vous avez vu ce qu'est la foi, ce qu'est l'espérance et ce qu'est l'amour. Mais en Jésus, vous avez vu aussi la manifestation parfaite de ce qu'on a appelé, selon le livre de la sagesse, les vertus cardinales. Résumant, toutes les autres vertus morales qui ont donc pour objet notre prochain et notre bonheur personnel. Parce qu'il y a les deux choses, hein. Le bien du prochain et notre bonheur personnel. Alors, Jésus a manifesté cette force, il a manifesté cette justice, il a manifesté cette prudence, il a manifesté cette maîtrise de soi, cette tempérance en toutes choses. Alors maintenant, quand vous serez sortis du camp, vous allez chercher les vertus qui tournent autour de ces quatre vertus principales. Et pour conclure maintenant, je voudrais vous laisser méditer vous-même. Donc, ce chapitre 12 des Romains, où vous y trouverez facilement ces quatre vertus. La force, verset 9, attachez-vous fortement au bien. La justice, verset 10, user de prévenance réciproque, toujours être juste à l'égard du prochain. La prudence, ne maudissez pas, n'aspirez pas à ce qui est élevé, ne vous vengez pas vous-même, soyez prudents dans tous vos jugements. Puis il y en a d'autres. Verset 14, verset 11, la tempérance ou la maîtrise de soi. Verset 17 et verset 21, quand il est dit de ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais de savoir s'associer aux choses humbles, quel équilibre cela va nous donner. Mais, pour que réellement vous réalisiez ce chapitre 12 des Romains, qui est la pratique des vertus chrétiennes, il faut que vous ayez un programme de pensée. Et ce programme de pensée, vous l'avez dans l'Épître aux Philippiens. Alors je vous donne la citation pour que, quand vous serez chez vous, vous méditiez sur ces textes, car ils vous redonneront tous les messages que j'ai essayé de vous apporter dans cette semaine. Je lis au chapitre 4 des Philippiens, pour laisser le texte dans son contexte, nous lirons depuis le verset 4. Réjouissez-vous quelquefois. C'est bien ça, hein, d'être corrigé sur place. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, découragez-vous. Ah. Elle a une bonne version. Que votre violence soit connue de tous les hommes. Hein? C'est ça, Thérèse? Qu'est-ce qui a raison, c'est moi ou c'est elle? C'est pas toujours celui qui prêche. Celui qui écoute, puis qui écoute bien. Faut pas avaler tout comme ça, hein, quand vous écoutez une prédication. Faut voir vraiment si c'est exact. Hein. Les chrétiens de Béret, ils examinaient chaque jour dans les Écritures si ce que Paul racontait était authentique. Et vous devez garder cet esprit critique, critique positive, bien entendu. Alors, on continue. Donc, c'est que votre douceur, pardon, j'avais mal vu, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il est dit, de tous les hommes? Pas de votre petit club, pas de votre petit groupe, de tous les hommes. Même de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ça concerne quelle vertu? L'espérance, hein? Vous voyez la puissance de l'espérance. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. C'est vrai ou c'est faux? Vous voulez le prendre à la lettre, ça? Ne vous inquiétez de rien. Et rien, c'est tout. Hein? Ça veut dire qu'en toute chose, il ne faut pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, de mettre tout dans le rien. Vous comprenez ça? Ne vous inquiétez de rien. Mais dans certaines choses, ça entre, hein. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, vous vous rendez compte? Ça va vous dépasser. Vous aimez être dépassé? Oui, soyez dépassé. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, ces cœurs qui si souvent se troublent et vos pensées qui si souvent s'agitent, elles seront gardées stables en Jésus-Christ. C'est ça la vertu chrétienne, la stabilité. Et alors le programme, verset 8. Quel est votre programme de pensée? Au reste, frère, tout ce qui est vrai. Alors ça exclut quoi? Tout ce qui est faux. Vous devez savoir la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors on ne s'occupe pas du faux. Vous n'avez pas à occuper vos pensées de ce qui est faux. Ni à lire certaines œuvres qui sont remplies de fausseté. Parce que ne pensez pas qu'on peut tout lire, tout voir, tout entendre et puis ne pas subir d'influence. Ce n'est pas vrai. On est marqué par nos lectures, par les films que l'on va voir sans discernement, tout cela nous marque. Alors, sachez éprouver toute chose, mais retenez ce qui est bon. Alors, au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, alors, ça veut dire que, qu'est-ce qui est le contraire d'honorable? Tout ce qui est honteux, hein? C'est pas honorable, les choses honteuses. Alors, c'est fini. Du reste, vous retrouvez ça dans les Éphésiens. Il y a des choses qui sont honteuses. Alors, ça, nous les mettons de côté. Ça ne doit plus nous toucher. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, c'est le contraire de quoi? Ce qui est injuste. Tout ce qui est pur, c'est le contraire de quoi? Impur. Tout ce qui est aimable, c'est le contraire de quoi? Haïssable, détestable. Hein? Les choses détestables, les choses haïssables, ça n'a pas à occuper vos pensées. Comprenez-le. Hein? Et puis, ensuite, tout ce qui mérite l'approbation. Alors, qu'est-ce qui ne doit pas nous occuper? Ce qui mérite la désapprobation. Soyez positifs, occupez-vous de ce que le Seigneur peut approuver, mais ne vous mêlez pas toujours de ce qui est pas approuvé par le Seigneur. Laissez cela, c'est le monstre. Tout ce qui est vertueux est digne de louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Vous avez là 7 points que vous pouvez méditer. Alors, si vous avez bien compris ça, j'ai maintenant un programme de pensée et mes pensées doivent arriver à devenir captives de l'obéissance du Christ. C'est là ce que vous trouvez dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître au chapitre 10, où l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte par la douceur et la débonnaireté du Christ. » C'est tellement beau. « Je vous exhorte par l'humilité, la débonnaireté du Christ. » Et puis il demande que toutes nos pensées soient amenées captives à l'obéissance du Christ. Parce que toute notre vie découle de ce que sont nos pensées. Et vos paroles alors seront le reflet audible de vos pensées et vos actions le reflet visible. Eh bien que Dieu nous fasse comprendre que la première chose qui doit subir une purification, c'est nos pensées. Et ensuite, pour la pratique des vertus chrétiennes, il nous faut un programme de paroles. Vous avez le programme de pensée, je ne fais que vous donner des jalons, je n'approfondis pas, vous approfondirez vous-même. Un programme de paroles. Dans Éphésiens, chapitre 4, la pratique des vertus chrétiennes. Alors, de nouveau, pour laisser le texte dans son contexte, je lis ceci au verset 25. Puisque nous avons été renouvelés en Christ, alors, verset 25, renoncez au mensonge. Ça c'est clair. Le mensonge ne doit pas avoir de place dans votre cœur. Le mensonge vient du père du mensonge. Et qui est le père du mensonge ? C'est le diable. Le mensonge, traitez cela comme quelque chose d'absolument diabolique. Ne dites pas, oh, mais c'est un petit mensonge. Il n'y a pas un petit diable, puis un grand diable. Il y a le diable. Hein? Et puis c'est tout. Et il est le père du mensonge, et il est le meurtrier dès le commencement. Et vous ne vous en sortirez jamais par le mensonge. Et si vous entendez des prédicateurs évangéliques même qui viennent vous dire qu'on peut employer le mensonge pour gagner des âmes au Seigneur, eh bien, ne les écoutez pas, parce qu'ils sont dans une voie d'égarement. Et ils deviennent des faux prophètes. Même s'ils vous disent, mais les sages-femmes, elles ont menti, et Dieu leur a fait des maisons. Ben, mentez, mentez, et vous aurez des maisons, mais oui. Dieu vous bénira parce que vous mentez. Soi-disant pour le Seigneur, il vous fera des maisons. Vous croyez que Dieu a fait des maisons aux sages-femmes parce qu'elles ont menti au Pharaon? Quand elles ont dit que les femmes hébreux étaient tellement fortes qu'elles avaient déjà accouché quand elles arrivaient. Toujours en retard, ces sages-femmes. C'est pas à cause de leur mensonge que le Seigneur les a bénis. C'est à cause de quoi? C'est parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu et qu'elles n'ont pas tué ses petits-enfants. Alors, hein, sachez comprendre. Puis maintenant, on nous dit... Mais vous savez, Rab, elle a menti, elle a dit que les espions, ils étaient partis. Puis elle a eu la vie sauve, alors si vous voulez sauver votre vie, elle mentait, mentait. Pauvre Rab. Rab, elle vivait au milieu des Cananéens, dans des mœurs dépravées. Elle était une prostituée, vous ne pouvez pas demander plus à une prostituée. Mais vous qui portez le nom du Seigneur, est-ce que vous pouvez employer le mensonge? Non. Et vous savez, ceux qui, pendant la guerre, se sont trouvés dans des situations terribles, ils avaient caché quelqu'un, et puis les Allemands arrivaient, et puis fouillaient toute la maison. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? J'en ai connu, jusqu'en Pologne. Ils ont dit aux Allemands, qui disaient, vous avez caché quelqu'un. Bien, allez, regardez. Et le Seigneur a fait des miracles, il a rendu des gens invisibles. C'est vrai, mais vous ne verrez jamais de miracle si vous faites des mensonges, si vous dites des mensonges. Vous ne permettez pas à Dieu d'intervenir. Et au Vietnam aussi, il s'est passé des choses extraordinaires dans ces dernières années, des délivrances. Mais ces délivrances, elles viennent de cœurs fidèles. et qui ne biaisent pas avec la parole de Dieu. Donc, on ne s'en sort jamais avec le mensonge. Ça doit plus sortir de notre bouche. Parler la vérité, chacun à son prochain. Voilà le programme de parole. Parler la vérité, chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez, Abraham a menti à Abimelech, et il a mis Abimelech dans une situation terrible qu'il devait mourir cette nuit-là. Mais Dieu, qui est un Dieu juste, a averti lui-même Abimelech, et Abimelech a écouté la parole de Dieu, mais ensuite il a dit à Abraham, pourquoi nous as-tu fait ça? Et Abraham a dit, bien, je ne savais pas qu'il y avait la crainte de Dieu dans ce milieu-là. Alors ne mettez pas même des infidèles dans une situation tragique à cause de vos mensonges. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Évidemment, on parle toujours de la sainte colère, mais moi j'ai eu une sainte colère. Vous savez, elles sont rares. Elles sont extrêmement rares, les saintes colères. Il y a des hommes colériques, des chrétiens, qui s'excusent toujours et qui parlent toujours de leur sainte colère. Qu'est-ce que c'est qu'une sainte colère? C'est la réaction du bien en face du mal. Mais le Seigneur en a une, oui, quand il a fait son fouet de corde. Mais il avait ses raisons. Mais pour nous, même si nous avons un moment de colère, le soleil ne doit pas se coucher sur notre irritation, parce que nous donnerions accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille de ses mains, en faisant ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous savez que, ici au Québec en particulier, il y a bien des choses qui devraient changer dans le langage des chrétiens. Quand il est dit, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Et qu'est-ce qu'on dit à la place du nom de Dieu? À tout moment, des fois, dans des bouches chrétiennes. Monde. Tiens, ben, c'est pas méchant. C'est même très doux. Vous savez ce qu'il y a derrière monde? Il y a mon Dieu. Vous escamotez la chose. Alors, ça, c'est aussi des choses qui feraient disparaître de notre bouche. Tu n'emploieras pas le nom de ton Dieu en vain. Il y a juste que dans votre manière de parler, puis cette abomination que j'entends sans cesse, je l'adore. Oh, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Bande de païens. Qu'est-ce que vous adorez? Vous l'avez pourtant appris au catéchisme. Pas besoin de devenir évangélique pour savoir ça. Un seul Dieu, tu adoreras. Alors, comment pouvez-vous adorer n'importe quoi? On adore un acteur, on adore un auteur, on adore même la nourriture, le fromage. Les trous du gruyère, qui n'est pas du gruyère, c'est de la même pâte. Vous allez dire, mais c'est pas grave. On commence toujours par ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, c'est péché mignon. Mais le Saint-Esprit, il est saint. Et il est très sensible, et c'est pourquoi il est contristé en nous. Et les vertus chrétiennes ne sont pas à vue avec tout cela. La pratique des vertus chrétiennes. Vous croyez que Jésus disait qu'il adorait n'importe quoi? Il était adorable, lui, le seul à adorer. Et qu'est-ce qu'il montrait aux hommes? Qu'il fallait adorer seulement le Père. Il cherchait des adorateurs pour le fromage. Il cherchait des adorateurs pour Kraft et compagnie, les multinationales futures. Il cherchait des adorateurs pour des films, pour des vedettes. C'est ça que Jésus faisait? Il cherchait des adorateurs pour le Père. Alors ne me dites pas qu'il ne faut pas parler du Père. Puisque c'est ça, vous êtes sauvés pour qui? Pour le Père. Si Jésus vous a sauvés, c'est pour son Père. Alors, apprenez à satisfaire le Père qui a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent la grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez, c'est quand même fantastique. Par votre bouche, il peut sortir une parole de grâce et qui peut faire du bien, encourager, vivifier une personne qui était découragée. Car il est dit immédiatement après, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quand on laisse nos lèvres dire n'importe quoi, eh bien nous attristons l'Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés. Alors que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté fleurit au milieu de vous. Elle m'aura jusqu'au bout, cette parole. Disparaissent. S'il y a des choses qui doivent disparaître dans nos habitudes, il faut que nous comprenions cela. Il y a des habitudes qui doivent tomber. On en a des bonnes ou on en a des mauvaises. Ici au camp, eh bien, la bonne habitude, c'est de baisser le couvert. Puis ça se continuera au camp malheur. 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 À ceux qui transgresseront ces commandements. À quoi ça sert un couvert? Dites-moi un peu. Et bien sûr, que vous n'êtes quand même pas des stupides ici au Québec. Hein. Vous savez bien que les mouches, ça va partout. Alors, si le couvercle n'est pas baissé, et puis après, ça rentre jusque dans la cuisine, puis après, on a des diarrhées, puis après, on a, c'est pas, je ne veux pas dire que c'est à cause de ça qu'il y a eu quelques diarrhées, mais enfin, on a des bobos, on a des misères, puis on se demande d'où ça vient. Ça vient de notre imbécilité à nous. Et parce qu'on est... On ne fait pas ce qu'on nous a demandé. Vous allez me dire, oh, quand même, alors si je dois penser à ça. Vous nous avez dit qu'il fallait penser aux choses d'en haut. Ben oui, quand on pense aux choses d'en haut, on ferme le couvercle. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'espère que vous en souviendrez. Mais ça, ce couvercle, hein, c'est une toute petite chose. Il y a tant d'autres couvercles. Il faut savoir fermer certaines boîtes. Mais oui. Alors, continuons. Ça doit disparaître. Vous voyez, notez bien, soulignez ça. Tu dois disparaître. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Puis comment est-ce qu'on doit se pardonner? Tellement beau, hein? Comme Dieu. Si vous preniez tous les comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu, et savoir ce que nous avons à faire. Laissez, qu'est-ce qu'il faisait comme Dieu? C'était Jésus. Alors s'il est en vous, laissez-le vivre ce qu'il vous dit, comme Dieu. C'est tellement facile. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité et à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, programme de parole, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il y a des conversations qui ne sont pas édifiantes, laissons-les de côté. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. C'est vrai. Voilà ce qu'il dit. Vous allez dire, oh, il n'a pas de conversation celui-là. Il loue le Seigneur. C'est pas une conversation ça qui pourrait édifier? Oui, dites au Seigneur, donne-nous des lèvres pures. Parce que voyez-vous, quand on est près du Seigneur, la révélation que Dieu a donnée à Ésaïe, quand il a vu sa gloire, quelle est la conviction qu'il a eue? Qu'il était un homme
aux lèvres impures. Il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. C'est le péché des lèvres. Et si vous lisez l'épître de Jacques, vous verrez combien Jacques insiste sur ce petit membre qu'est la langue. Et qui peut même tuer. Vous tuez les personnes par la langue. Il n'y a pas besoin d'avoir un revolver. Mais quand on dit des mensonges, quand on calomnie quelqu'un, on peut l'amener à un tel découragement qu'il peut se détruire. Alors que vous avez à le fortifier par vos paroles. Eh bien, que le Seigneur vous donne de suivre ces conseils de l'Écriture qui résument tout l'enseignement que nous vous avons donné. Et une troisième chose, c'est d'éviter le péché par omission. Qu'est-ce que c'est le péché par omission? Vous l'avez justement dans Jacques 4 au verset 17. Pour celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui, c'est péché. Péché en pensée, péché en parole, péché en action, mais aussi ce péché par omission qui m'a été révélé quand j'avais 18 ans sur une table d'opération, que je me suis dit, mais maintenant, je m'en vais mourir, je ne peux rien changer, et ce n'était pas les péchés que j'avais commis qui me revenaient à l'esprit, c'est avec la grâce qui les couvrait, mais c'était les occasions manquées. 18 ans, c'est long. Dans ces 18 ans, que de vide, que de fois j'aurais pu faire ceci et faire ça, puis maintenant j'allais mourir, et c'était fini. Alors ne perdons pas les occasions que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous prépare. On n'a pas besoin de se préparer des occasions, on n'a qu'à les saisir. C'est lui qui les prépare. Alors pour cela, écoutons le conseil de Pierre, et c'est la dernière lecture que je vais vous faire. Une lecture qui était très chère à mon cher père. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, qui vous aidera aussi à comprendre ce qu'est cette suite des vertus chrétiennes. Je lis depuis le verset 1er jusqu'au verset 11, c'est notre dernière lecture, et après vous aurez tout le temps pour les témoignages. Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, est-ce que vous croyez que votre foi en 1980 a le même prix que celle de l'apôtre Pierre et des apôtres? Ou bien vous croyez que c'est moins bon? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une foi qui a le même prix. Il n'y a pas une dévaluation. Elle a la même puissance. Elle a le même prix. Elle peut faire les mêmes choses. C'est vrai ou c'est pas vrai, d'après le texte? Nous avons reçu en partage une foi du même prix. Mais est-ce que vous considérez que votre foi a autant de prix que celle de Pierre? Vous devez pouvoir dire oui. C'est vrai. Ce n'est pas une autre foi. C'est la foi en qui? Au Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et cela, nous l'avons reçu par la justice de Dieu et du Sauveur. Il ne nous enseigne pas la justice, lui, sans être juste. Dans sa justice, il a voulu que nous ayons la même foi. Et nous le recevons dans cette justice. Alors que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et comment est-ce que cette grâce et cette paix nous seront multipliées? Par la connaissance de notre Seigneur. Voyez-vous, mais vous me dites, mais moi je le connais mon Seigneur. Mais l'apôtre Paul, après des années de vie avec Jésus, disait, je cherche à le connaître. Lui. On ne le connaît jamais. Et nous devons entrer dans cette connaissance du Seigneur qui doit être notre passion. Et les versets plus loin. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est toujours dans cette connaissance du Seigneur que vous progresserez. Et c'est cette gloire et cette vertu vous assurent de la part de Dieu
les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, que vous soyez vraiment les enfants de votre Père des cieux. Comme Jésus disait, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Si vous voulez continuer de vivre du monde, de vous nourrir des choses du monde, eh bien, croyez-le, vous ne ferez pas de progrès et vous ne pratiquerez pas les vertus chrétiennes. Il faut savoir dire non à certaines choses et il faut les fuir. À cause de cela même, alors c'est là que vous avez cette suite, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Et voilà, cette succession des vertus chrétiennes que nous devons vivre, joignez à votre foi. Ne dites pas, mais moi, il me suffit, j'ai la foi, je suis un croyant, j'ai la foi. Qu'est-ce que vous devez joindre à votre foi? La vertu. Et nous avons dit que la vertu, c'était la force. Cette force surnaturelle qui est là pour vous. Vous n'avez pas d'excuse quand vous flanchez. C'est qu'on s'est éloigné du Seigneur. Il est votre force. Il est votre force. Jean Huss, devant son bûcher, a commencé de réciter le psaume 27. C'était un précurseur des réformateurs. Il était brûlé à Constance, une ville de Suisse. Eh bien, quand il a vu son bûcher, bien vous savez, la chair tremble, hein, c'est pas drôle d'être grillé vif. Et il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Pas même de la flamme. Et il a pu rendre ce témoignage monté sur le bûcher en louant et en glorifiant Dieu. Il avait reçu cette force. L'Éternel est la force de ma vie. Et alors, comme je l'ai dit quelquefois en méditant ce chapitre, vous pouvez maintenant vous-même examiner dans les Écritures des hommes qui ont eu la foi, mais qui ont manqué de vertu, qui ont manqué de force. Et je pense spécialement à Lot. Lot, le neveu d'Abraham, quand il a dû choisir lors de sa séparation de son oncle, il a regardé ce qui lui paraissait le meilleur, la vie la plus facile, et il a choisi les plaines de Sodome. Il choisit pour lui. Il a manqué de force et il a installé sa famille à Sodome. Et il a dit, les gens de Sodome étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dû fuir cette ville, mais il a perdu sa femme, deux de ses filles, ses gendres, et puis il a fini dans l'inceste. C'était ça la force de Samson? Non. C'était l'esprit qui le saisissait. Puis il a cru qu'il pouvait toujours aller comme ça. Et puis il a pensé qu'il pouvait épouser une femme philistine. Elle me plaît, qu'il disait à ses parents. Ses parents lui disaient, mais pourquoi tu ne prends pas une femme de notre pays, une Israélite? Mais elle me plaît. C'est la réflexion de tout le monde aujourd'hui. Elle me plaît. Alors je la veux. Elle me plaît. Et puis après, il en a pris une, puis après ça n'a pas marché, il en a pris une autre. Et puis c'était Delilah. Et puis pour finir, Delilah l'a trahi. Mais il aimait qu'on l'endorme. Il s'endormait sur ses genoux. Et puis elle l'a tellement bien embobiné que finalement il lui a révélé le secret de sa force. C'était qu'il est Nazaréen, devant sa mère. Puis il a pensé qu'il pourrait toujours s'en tirer après avoir dit quoi? Des mensonges. Voilà un menteur, sans fin. Menteur par excellence, puis il était croyant. Vous savez, on ne ment pas comme ça sans autre. Un jour, Dieu a dit, c'est assez. Mais Samson ne savait pas. Il ne savait pas que l'esprit s'était retiré de lui. Et il était comme un autre homme. On lui a crevé les yeux. Il a manqué de piété. La piété, c'est notre relation continuelle avec Dieu. Et il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Donc, il n'était plus en relation avec lui.
On prétend qu'on est en relation avec lui, mais on ne l'est plus. Enfin, l'affection fraternelle. Qu'est-ce qui a manqué d'affection fraternelle ? Ils ont pourtant fait de beaux discours. Les amis de qui ? De Job. Ils l'ont jugé. Ils n'ont pas eu l'affection fraternelle qu'ils auraient dû avoir. Une affection fraternelle qui va jusqu'au bout. Bien, méditez, vous verrez. C'est beaucoup mieux que faire des mots croisés, ça. Vous cherchez dans la parole ces choses-là. Et ça commence à vous passionner. Et vous serez comme le psalmiste qui dit, j'ai de la joie dans ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin. Puis vous voyez que ça s'accorde. Puis vous faites des découvertes. Puis ça vous édifie. C'est merveilleux. Puis le temps passe. C'est mieux que les patients. Alors mes amis, à tout cela, eh bien, ajoutez l'amour. Et qu'est-ce qu'il y aura ? Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles feront que quand vous quitterez le camp, qu'est-ce qui se passera? Vous dites maintenant, moi je suis triste, hein, c'est la dernière soirée, on quitte le camp demain. Mais qu'est-ce qui compte? L'entrée dans votre maison où vous serez pour un temps, puisqu'on attend le Seigneur. Et qu'est-ce qui est devant vous? On sort du camp, mais qu'est-ce qu'on attend? Moi, j'attends pas la sortie, j'attends l'entrée. J'attends mon entrée, notre entrée dans la gloire du Seigneur. L'entrée réelle. Et alors, pour que nous puissions entrer par la grande porte et non pas par la porte de service, pour qu'on ait une riche entrée dans le royaume éternel, eh bien, il est dit, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles feront que vous ne serez ni oisifs, ni stériles quant à ce qui regarde la connaissance de Dieu, et une riche entrée vous sera donnée dans le royaume éternel de Dieu. Et puis, si ces choses n'y sont pas, eh bien, celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle, il ne voit pas loin. Comment est-ce qu'on appelle un type qui ne voit pas loin ? Il est myope, myope spirituel, il ne voit pas loin. Il n'a pas cette espérance vivante. Puis il a oublié la purification de ses péchés. Il a oublié le sacrifice du Christ. Il a oublié le prix que le Christ a payé. Car si je vis dans la contemplation du Christ, que je me souviens du prix qu'il a payé pour moi, que mon cœur désire répondre à son amour, puisque lui m'a aimé le premier. Et alors je comprends qu'en effet, ce qui compte pour nous, c'est l'amour. L'amour qui doit remplir notre cœur, l'amour qui doit devenir votre bannière, sa bannière sur moi, c'est l'amour. L'amour qui n'est pas seulement une bannière, mais qui est un chemin. Marchez maintenant dans l'amour, c'est un chemin, on marche dans un chemin. L'amour est un terrain, soyez enracinés et fondés dans l'amour. Et sur ce terrain, vous bâtirez une maison. L'amour est une demeure. Demeurez dans mon amour, dit l'Écriture. Et dans cette demeure, vous aurez un vêtement. Et il est dit, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, de sorte que vous aurez un vêtement. L'amour, c'est un vêtement. L'amour, c'est un lien. Mais aussi, quand vous devrez sortir pour le combat, l'amour est une cuirasse. La cuirasse de l'amour, nous dit l'Épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. Et qu'est-ce qu'il est encore, cet amour? Bien, il est le mobile, le moteur qui nous fait agir dans tous nos actes. La foi, elle est vraiment agissante par l'amour. Et qu'est-ce que cet amour est encore? L'amour est un fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et cet amour se manifeste dans la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Et puis, si l'amour
est un fruit, qu'est-ce qu'il est encore? L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est quelqu'un. Dieu est amour. Et comment connaissons-nous Dieu? En Jésus-Christ. La pratique des vertus chrétiennes, c'est réaliser en nous l'espérance de la vie.